Pause Famille, une émission avec Bénédicte Dujonquois, conseillère conjugale et familiale. Elle répond aux questions d'Antoinette Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Pause Famille. Nous allons parler aujourd'hui de la solitude intérieure. Cultiver sa solitude intérieure, c'est un vrai chemin de vie. Mais c'est quoi la solitude? C'est un mot qui fait un petit peu peur. Nous allons parler avec Bénédicte Dujonquois.
Oui, alors bien sûr, si on pense solitude, isolement, dont souffrent tant de personnes, c'est à combattre. La solitude des personnes âgées, des mamans seules, des personnes séparées, divorcées. Voilà, cette solitude, isolement, elle est à combattre autour de nous, pas bien loin, et nous l'avons vu encore plus depuis le confinement. Mais la solitude dont nous allons parler dans cette émission, c'est la solitude intérieure. Vous savez, la bonne solitude où je vais nourrir mon lien à moi-même. Et en fait, il y a un enjeu à apprivoiser ce lien avec moi-même, cette bonne solitude qui me fait grandir. Et cette solitude intérieure, nous la traversons de toute façon à un moment ou à un autre. Et c'est intéressant de voir combien certaines personnes qui n'étaient pas habituées ont fait l'expérience de cette solitude intérieure pendant le confinement.
Donc là, on l'a choisie, hein. C'est pas une la solitude, on la subit pas là. Pour
oui,
que ce soit bien clair pour
on
nos
la
auditeurs.
Choisit, on la travaille.
Oui. On la travaille. Alors, dans notre monde hyper rapide et hyper connecté, est-ce que l'expérience de cette bonne solitude, est-ce que ça s'apprend?
Oui, ça s'apprend dès tout petit. Les enfants sont très réceptifs et c'est bénéfique pour eux. Ils ont besoin d'avoir des moments de solitude pour souffler, se raconter des histoires, être dans leur imagination ou avoir un peu de temps dans leur chambre pour être avec eux-mêmes, pas toujours les occuper. Et puis, on peut les initier à des moments de silence, pendant la prière, si nous sommes croyants, ou bien devant un beau paysage. Demander aussi, le week-end, après le déjeuner, d'avoir un temps calme. C'est intéressant de voir que, par exemple, dans les écoles ou les mouvements jésuites, la pédagogie propose aux enfants et aux jeunes des moments de contemplation et de relecture. Et ça nourrit l'expérience personnelle de la bonne solitude avec soi. Voilà. Et ça permet d'avancer sur le chemin de la connaissance de soi.
Et alors, c'est bon, c'est vrai pour des tas de publics, en fait.
C'est bon pour tout le monde. Et je travaille ça aussi avec des jeunes trentenaires qui sont en colocation, qui ont un travail et qui ont beaucoup de mal à être seuls.
Alors, comment est-ce qu'on peut apprivoiser la solitude intérieure en tant qu'adulte, nous qui sommes souvent pressés? Est-ce que ça s'apprend?
Alors, ça s'apprend et ça se vit. Peut-être en se posant des questions d'abord à soi-même. Comment je me sens face au silence? Comment je me sens face à une plage de temps libre qui n'était pas prévue? Bien, si on est en famille, comment se vit le rythme familial? Est-ce qu'il y a toujours des copains à la maison, des week-ends archi-occupés? Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas de temps pour eux. Et en fait, en creusant, ils ont un peu peur d'être avec eux-mêmes. Et donc, c'est essentiel que chacun renoue avec son propre espace intérieur, soit attentif à ce qui se passe au fond de lui. Et puis, c'est comme ça que, du coup, on va se connecter à ses sentiments, la colère, la peur, la joie, la tristesse. Donc, importance de se connecter à son propre espace intérieur.
Donc, en fait, cela demande de ralentir le rythme.
Oui, sans doute. Et puis, de se réserver des plages où on est seul. C'est très difficile dans notre société. Il y a beaucoup de sollicitations, on le sait, Et la machine, elle s'emballe vite. Du coup, se poser, c'est difficile. Moi, j'entends beaucoup de personnes me dire « Quand je rentre à la maison, j'ai besoin d'un sas de transition pour être mieux disponible à mes proches ensuite. » C'est une bonne chose de se le dire et de le dire à ceux qui habitent avec moi. Et dans un couple, c'est essentiel. En fait, pour moi, c'est important que chacun des conjoints ait un petit coin à soi, matérialiser si possible une table, un bureau, un établi, autre chose, pour se retirer. Ou bien avoir un endroit dans une pièce commune où on va pouvoir lire, réfléchir ou s'évader psychiquement. Je pense à un couple ils ont deux fauteuils et ils disent c'est un endroit où on est bien ensemble, mais en même temps, chacun a son livre, se pose. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel.
Non, c'est même quelque chose de bon hein, quand on vous entend.
Mais oui, c'est quelque chose de très, très bon.
Donc, ça veut dire que ce temps de solitude intérieure est bon pour soi, mais aussi pour la relation.
Oui, alors, ceux qui me connaissent savent que je prends très souvent cet exemple-là. C'est l'exemple d'un enfant qui est en train de jouer au Playmobil dans sa chambre. La porte est ouverte, il ne voit pas son parent. Et pourtant, il sait que le parent n'est pas très loin. Et de temps en temps, le parent passe la tête en disant « tout va bien » ou bien l'enfant vient voir le parent en disant « est-ce que tu peux m'aider à remettre le petit chapeau du Playmobil ?» Et donc, ça veut dire « je peux vivre sans toi, tu peux vivre sans moi » et pourtant, nous sommes en lien. Et ça, ça fait partie de l'éducation. Vraiment, quel bonheur quand un enfant peut faire ses constructions de cap-là, être dans son imagination, voilà, avoir son espace, parce que c'est bon pour la relation, et plus tard, ce sera bon pour les relations qu'il aura comme adulte.
Et donc, tout le monde peut-il cultiver sa solitude intérieure ?
Ah ben, je pense qu'être bien avec soi-même, ça nous concerne tous. Nous sommes nés tout seuls, même s'il y avait une sage-femme, et nous mourrons tout seuls, même si quelqu'un nous tient la main. Nous sommes des personnes uniques, avec un espace intérieur unique, et nous pouvons habiter de façon personnelle cet espace unique. Et je crois que tout ce qui enrichit personnellement une personne, c'est un enrichissement pour une relation. Et puis ça peut concerner des personnes qui vivent seules ou des personnes qui sont très occupées. Je prends l'exemple d'une chère amie qui vit en maison de retraite, elle m'entend sûrement. Eh bien, elle a une solitude intérieure nourrie, elle ne s'ennuie jamais, et pourtant sa vie n'est pas facile du tout. Mais elle nourrit son lien avec elle-même, et quand elle voit du monde, ses enfants ou des personnes qui viennent, eh bien vraiment, elle est dans la relation, mais elle cultive beaucoup son espace intérieur.
Alors, vous nous invitez à des temps de solitude intérieure, mais comment nourrir
Déjà, ça peut être méditer, se promener seul. Et puis, moi, j'insiste sur la relecture régulière de sa vie. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la conscience. Qu'est-ce que ça m'a fait, le ressenti? Et puis, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire le sens. Donc, voilà, la conscience, le ressenti, le sens. Et donc ça demande d'être seul avec soi-même. Alors, ça peut être sur son vélo, ça peut être en voiture, ça peut être chez soi. Mais en tout cas, c'est important.
Et donc, cette solitude intérieure, elle fait du bien à la fois aux gens actifs et ça peut être aussi aux gens isolés.
Tout à fait. Moi, j'ai vraiment plein d'exemples de personnes qui ont des situations familiales, mais complètement différentes. Et on voit dans leur sourire, dans leurs yeux, dans leur on voit ceux qui ont un espace intérieur, qui prennent du recul pour se ressourcer, pour relire leur vie. Encore une fois, hein, méditer, faire une relecture de sa vie. Et ça rend libre. En fait, cette solitude intérieure, elle rend libre au sens de la bonne liberté. Et encore une fois, moi, je suis très touchée d'entendre certaines personnes qui l'ont vécu pendant le confinement. Alors qu'elles soient sous le même toit, ce qui était vraiment un défi, ou bien qu'elles vivent seules, ce qui était aussi un défi. Et ça, ça m'émerveille.
Alors pendant le confinement, ça devait être plus compliqué, hein ?
Pour le confinement, c'était plus compliqué, mais ceux qui ont pu vivre cette solitude intérieure, c'est ceux qui se sont nourris par la radio, par des émissions qui nourrissaient leur âme, leur esprit. Et ces personnes-là, elles ont cultivé un lien avec elles-mêmes.
Alors, Bénédicte, je vous laisse conclure hein, sur la solitude intérieure.
Bien sûr, je dis non, non, non à la solitude qui isole. Ça, vraiment, la solitude qui isole, c'est une mauvaise chose. Nous devons la combattre. Nous devons regarder autour de nous les personnes isolées, hein, qui sont enfermées. Mais je dis oui à la solitude habitée lorsqu'elle est apprivoisée. Ça peut devenir une amie. Alors, attention, hein. La mère de famille ou le père de famille qui dira « moi, j'ai besoin de temps le week-end pour être tout seul avec moi », etc. Attention, il faut aussi raison garder et être réaliste. Mais cette solitude intérieure, expérimentons-la. D'abord, ça va nous nourrir et puis aussi, ça va en donner le goût à nos enfants et puis aussi à nos petits-enfants parce que ça montre qu'on peut prendre du temps pour soi et que ça rend heureux.
Et ça se cultive dès le jeune âge.
Dès le jeune âge.
Merci Bénédicte Dujonquois. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez trouver les coordonnées de Bénédicte Dujonquois sur le site de cabinetraphaël.fr. Et à vous tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. Merci pour votre écoute. À bientôt.